touche pas, gamin.
Quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Câble, arrêtez de salir mon...
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que...
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.
Dans notre seconde place au débat.
Second, effectivement. Nous allons aborder un sujet peu connu, la zététique. Ce soir, pour nous accompagner, nous accueillons avec nous la tronche en biais.
Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous?
Bonsoir, ici c'est la tronche en biais, nous le sommes.
Alors, je vous entends, je vais me permettre d'augmenter un petit peu votre volume pour qu'on vous entende bien.
Faites.
Hop.
C'est mieux?
C'est un peu mieux.
Bon.
On va tâcher de parler un peu plus fort. On va parler de...
Oui.
Voilà, on fera au mieux au niveau du volume, mais voilà. Donc, pour cette émission, nous accueillons donc Thomas Durand et Vled Tapas de la tronche en biais. Alors, petite précision peut-être. Alors, Thomas Durand, c'est le nom du personnage Acermandax sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Et Vled Tapas, alors Vled Tapas, est-ce que c'est un nom dédié à la chaîne YouTube ou est-ce que c'est le vrai nom?
Mais faites vos propres recherches.
Alors, ça commence bien. Eh bien, on va faire nos propres recherches.
C'est un nom de scène, bien entendu.
c'est un nom de scène. Ok, parfait. Nous sommes sur les ondes de Radio Alpa, mais également sur les réseaux sociaux, sur Radio Alpa, radio-8 Alpa sur Instagram. Et vous pouvez également aller sur la page Facebook de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, voire même sur le Twitter, puisqu'il y a un Twitter Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Commençons donc sans plus tarder. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Quelles sont vos formations? Présentez-nous un peu votre activité et qui vous êtes.
Alors, je crois que mon bien-aimé Thomas Durand veut que je commence. Alors moi, personnellement, j'ai une formation qui n'a aucun sens, vraiment. J'ai un parcours académique et un parcours professionnel qui ne ressemble à rien. j'ai commencé par faire des études de musicologie. Je suis allé jusqu'à la thèse pour des raisons administratives, parce que le milieu administratif des thésards est ce qu'il est. Je n'ai malheureusement pas pu finir ma thèse. Après ça, je me suis orienté vers la médiation scientifique et culturelle. Ça fait environ 10 ans, quelque chose comme ça. 10 ans que je fais ce travail en compagnie de Thomas qui racontera son propre parcours par la suite. Et puis, donc je me suis formé à la philosophie des sciences, je me suis formé à l'épistémologie aussi. C'est comme ça qu'on en est arrivé à la tronche en biais, qui est une chaîne de philosophie qui ne dit pas son nom. Et puis, par la suite, là, la dernière professionnalisation j'ai suivi une formation en langue des signes pour pouvoir me former, pour pratiquer mon métier auprès des publics sourds en langue des signes française et apporter la science et la médiation scientifique à un public encore plus grand.
Évidemment, ce ne sera pas à la radio.
Alors, ça va être difficile de signer à la radio, c'est exact.
Et donc en ce qui me concerne, alors moi je suis docteur en biologie, j'ai été un petit peu chercheur autre quoi, et puis pareil, il y a une dizaine d'années, je me suis consacré à ça. On a créé la chaîne La Tronche en biais en 2014, donc ça fera 9 ans à la fin d'année, et j'écris des bouquins essentiellement sur la théorie d'évolution, parce que je suis biologiste à la base, et du coup on a une entrée sur les biais cognitifs, qui est une lecture un peu biologique et psychologique du raisonnement, sur comment ça fait que le cerveau humain... qui est pourtant bien foutu, à des ratés, il y a des raisons évolutionnaires. Donc c'est pour ça que la chaîne s'appelle La Tronche en biais, parce qu'on parle du biais cognitif, c'est notre entrée principale, c'est pas la seule, sur la pensée critique. Et je suis aussi auteur à côté, donc j'écris des romans, ce qui fait que la chaîne au départ était la rencontre entre quelqu'un qui écrit du théâtre et qui fait de la science, quelqu'un qui a une aisance et une diction parfaite, et qui fait de la musique, et puis on avait Lucky. Donc au départ, il est toujours présent dans le kit, mais il était très présent au départ pour les épisodes, qui lui est graphiste, dessinateur, et vidéaste. Celui qui, donc c'est aussi, et c'est une dimension importante, c'est aussi un projet artistique. Voilà.
D'accord. Et alors vous venez de Nancy, vous, si je ne me trompe pas, vous êtes dans la région de Nancy.
Nous vivons actuellement à Nancy,
tout à fait, tous les trois.
D'accord, oui, donc vous n'êtes pas... vous n'êtes... Effectivement, ça se voit qu'il y a du théâtre un peu derrière. Vous n'êtes pas...
Il faut. Le succès des chaînes n'est pas corrélé que, voire pas du tout, à la qualité du contenu. Parce que si l'emballage s'il n'y a pas quelque chose d'artistique de la manière dont on restitue les choses, en médiation ou en vulgarisation, on peut faire un excellent travail que personne ne va regarder. Donc il y a aussi ça qui compte.
Il faut donner un rôle pour mieux véhiculer les idées qu'on veut faire passer.
Ça, à moins qu'on soit soi-même un personnage vraiment incroyable. Oui.
Certes.
Je n'ai jamais joué la comédie de ma vie.
Non, tu n'es pas du tout.
Je suis ainsi tous les jours. Je confirme, hélas.
Hélas.
Et alors, qu'est-ce que c'est la steak et la tronche en biais aussi?
Alors, la tronche en biais, c'est la chaîne qu'on a créée. À l'origine, il y avait la tronche en biais, qui est mon initiative. Qui est mon initiative de base. J'ai proposé à Thomas de créer une chaîne de médiation sur l'esprit critique et la zététique. Zététique, c'est un terme qu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'aime pas beaucoup.
Moi, je l'utilise.
Thomas et moi, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Mais ce qui montre que l'alternative est féconde, on arrive à travailler ensemble quand même. Et je me suis rendu compte que à cette époque dorée,
lointaine,
où les chaînes de médiation culturelle fleurissaient sur YouTube, l'époque des Nota Bene, l'époque énormément de médiateurs scientifiques et culturels arrivaient, je discutais avec des collègues, parce qu'à l'époque, moi, j'avais une chaîne de médiation scientifique en musicologie. Donc, je parlais de ludomusicologie.
Qui va revenir.
Mais qui est en cours de reviendage.
Bien.
Qui est en cours de reviendage. Et je discutais avec des collègues de l'époque et on parlait d'esprit critique. Je leur parlais de toutes les discussions qu'on avait avec Thomas à l'époque. On avait énormément de débats sur l'esprit critique, sur la zététique. Je leur en parlais et ils me disaient « Mais pourquoi il n'y a personne sur YouTube qui en parle ?» Et du coup, je me suis dit « Mais effectivement, pourquoi il n'y a personne qui en parle ?» Je ne me sentais pas les épaules de porter ce type de projet tout seul. J'en ai parlé à Thomas, qui a accepté de le faire, mais qui à l'origine, et c'est à toi.
Oui, moi, c'était pas mon projet. Moi, j'étais entre deux postes académiques. Je me destinais pas à ça, donc je voulais pas être à l'antenne, ça m'intéressait pas. Donc du coup, en revanche, la comédie, c'était marrant. Donc du coup, on a créé Mandax, la marinette, qui au départ, c'était lui qui avait passé à l'écran, et moi, j'étais sous le bureau. Mais Lombert n'ont pas apprécié, donc maintenant, Mandax a un peu disparu. Mais il va revenir aussi, c'est prévu, mais
oui.
Il y a trop de projets. Voilà. Donc la tronche en biais, c'était ça. Et on a créé la STEC autour, Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique.
Ça se signe comme ça.
Voilà, alors à la radio, ça passe moins bien.
C'est très radiophonique.
Et parce que voilà, ce projet, on voulait le gérer de manière correcte. On avait des revenus via Tipeee et d'autres plateformes de dons. Les gens nous soutenaient. Il fallait que ce soit géré. Donc on a fait une asso pour gérer ça, pour créer après des emplois. Maintenant, nous sommes employés par la STEC, Vlad et moi. Et donc, c'est un projet qui est devenu professionnel.
Voilà. D'accord. Et alors, dans l'ASTEC, donc l'Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique, si je ne me trompe pas, dans l'ASTEC, bon, le projet, la chaîne YouTube La Tronche en Biais est un projet de l'ASTEC. Enfin, j'imagine que ça rentre en ligne de compte dans l'ASTEC. Qu'y a-t-il d'autre dans l'ASTEC? Quelles sont éventuellement les autres entités, les autres personnes, les autres projets quelles sont les autres lignes d'action, on va dire, de l'ASTEC dehors de La Tronche en Biais?
Ils sont essentiellement en développement, ça prend son temps, avec une chaîne sur l'ufologie, parce qu'on a deux ufologues très compétents dans l'assaut, donc leur projet est en train de se construire. On a également un collègue qui veut créer sa chaîne de médiation sur les sciences du vivant, sur l'épistémologie et l'ombiologie. Donc c'est Corentin, donc c'est pareil, son projet, puis Gled, avec son projet personnel d'orienter cette vulgarisation vers les publics sourds, ça pourra se faire sur la tronche en biais, mais sa vocation, c'est d'être présent sur le terrain. Et donc, voilà, il y a ces aspects-là. Il y a un jeu de société qui est un petit peu moribond, mais de cartes sur les sophismes. Et puis, il y a d'autres trucs, plus ou moins.
Et puis, parmi les projets qui ont déjà commencé à naître, il y a certains organismes qui nous appellent pour faire de la captation.
Oui.
Pour faire de la captation de conférences, de la captation de tables rondes. Comme on a des compétences techniques dans la STEC aussi,
voilà.
On a des techniciens qui sont remarquables. On fait des lives qui moi personnellement m'impressionne, je n'ai pas ces compétences techniques, on commence à voir quelques organismes qui nous appellent pour faire de la captation de projets. Et ça aussi, ça fait partie des projets de l'ASTEC.
Voilà. Et puis à côté, il y a tout ce qui va être conférence de ma part ou de celle de Blaise, de parfois tous les deux, ou de formation, qui sont dans l'ASTEC ou en dehors, en tout cas voilà, qu'on assure aussi, formation et esprit critique, pour tous les publics. Sauf les enfants. Trop compliqué ça.
Les enfants, on ne sait pas faire, c'est un vrai. C'est un vrai talent pédagogique que nous ne possédons pas.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à monter ces projets qui sont bah déjà bien concrétisé.
Parce qu'il y a une dimension, on va dire, par exemple, là on parlait qu'il y avait beaucoup de chaînes de vulgarisation scientifique qui apparaissaient sur YouTube au moment où la tronche en biais a été créée. Donc, vous vous êtes dit, il n'y en a pas sur l'esprit critique, donc pourquoi pas. Est-ce que il y a eu une réflexion, on va dire, plus, je ne saurais pas comment dire, plus ressentir un véritable besoin d'utilité publique, d'éveiller sur ces sujets-là. Est-ce que c'était parti peut-être d'un constat de votre part que l'esprit critique était quelque chose qui se perdait? Est-ce qu'il y a des origines de ce type-là qui vous ont aussi poussé à mener ces projets, quoi?
Alors, en ce qui me concerne, il y a une incontestable dimension citoyenne. Il y a quelque chose que je dis toujours. Moi, personnellement, je viens d'une famille prolo, personnellement.
On est deux, hein.
Voilà. Nos parents se sont saignés aux quatre veines pour qu'on puisse suivre des études universitaires. Et malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est que pour l'instant, la science était confinée dans les universités. Ce qui moi me dérange. Donc mon objectif c'était j'ai eu la chance de faire des études universitaires, je veux sortir la science, je veux sortir la connaissance, je veux sortir le savoir des universités pour le répandre de manière populaire, pour le transmettre vraiment à un peuple qui peut-être n'a pas eu la chance de faire des études ou tout simplement n'a pas suivi le même type de cursus universitaire que moi. En tout cas l'idée c'est vraiment de faire en sorte que la connaissance soit partagée. Puis évidemment, il y a une vocation personnelle aussi, j'aime faire ça.
C'est le principe de la vulgarisation. Vulgus, ça veut dire commun.
C'est ça.
C'est rendre commun la science. La connaissance est un bien commun. Et la notion de bien commun disparaît un petit peu. Donc c'est un petit peu l'éducation populaire, par exemple en addiction. Il y a une dimension axiologique, on a des valeurs qu'on veut partager. C'est une dimension politique, on est militant pour la raison.
Tout à fait.
On pense que la société se porte mieux lorsque on est plus raisonnable et qu'on a plus de manières, qu'on sait mieux argumenter, qu'on sait mieux distinguer les bons arguments des mauvais et qu'on sait mieux repérer les vrais experts des faux. On a bien vu, la crise Covid, que c'était une vraie question.
Oui. C'est sûr. Et pour répondre à tout ça, vous le disiez tout à l'heure, par exemple, pour que chacun, en dehors de regarder, par exemple, des vidéos de la TEB, peut se former. Vous parliez de formation tout à l'heure. Alors bon, vos formations, qui je pense à Thomas, par exemple, quand on fait des études poussées en sciences, souvent l'esprit scientifique et la démarche scientifique généralement introduisent ces notions à la fois transversales et à la fois fondamentales d'esprit critique. Vled a fait une formation en philosophie des sciences. Alors philosophie des sciences, on pense par exemple vite à Gaston Bachelard, par exemple, ou plus récemment peut-être à Étienne Klein, qui s'est pas mal fait remarquer ces dernières années dans le domaine. Et des formations que vous pouvez proposer. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ces formations?
Alors, premièrement, mon humilité m'oblige à corriger, je n'ai pas suivi de formation en philosophie des sciences. Je me suis formé à la philosophie des sciences, ça a été autodidacte. Ma formation de base, c'est une formation en musicologie, formation qui m'a apporté une méthode qui m'a permis par la suite de me renseigner sur d'autres sujets qui n'ont pas forcément à voir avec la musicologie. Typiquement, on va parler d'évolution, on va parler d'énormément de sujets qui n'ont rien à voir avec la philosophie, avec les sciences humaines, qui n'ont rien à voir avec la musicologie. Mais l'avantage de la science, c'est que la base de la science, le premier pas, c'est une méthode. Par la suite, on acquiert des connaissances, mais il y a néanmoins des méthodes scientifiques, pas une méthode scientifique, mais des méthodes scientifiques, que d'ailleurs nous essayons de transmettre à notre public, qui peuvent déjà nous donner quelques informations sur la manière à minima d'acquérir des connaissances valables.
Et moi, je voudrais corriger peut-être une idée fausse qui est dans votre question. Et moi, je suis arrivé jusqu'à la thèse de science sans avoir croisé un gramme d'épistémologie, pas un atome, rien, zéro. Pas de formation du tout. Ça, moi, j'ai suivi en biologie. J'ai pas eu un seul cours de sciences humaines après le lycée.
Oui, mais j'entendais plus dans la, on va dire dans la façon de procéder quand on fait des sciences. Cette façon de procéder est très souvent affiliée à cet esprit critique,
à
l'hémisphère biologie.
Il y a des présupposés. Voilà. Dans la pratique de la science, il y a des choses qu'on apprend sur le tas. on regarde comment font les gens, et on revient qu'il y a une rigueur qui s'applique. Mais il n'y a pas assez, en tout cas dans les cursus en France, en tout cas celui que moi j'ai suivi, maintenant ça fait quelques années, peut-être que c'est plus vrai, il n'y a pas d'explicitation réelle de ce que c'est qu'une connaissance, de ce que c'est que là où les méthodes scientifiques, de ce que c'est que, qu'une croyance, de ce que c'est qu'une preuve. Donc c'est des notions qui relèvent plus de la philo des sciences, qui sont importantes, et la plupart des gens qui suivent un cursus sont pas en philo des sciences. Donc on aurait besoin que davantage le philo des sciences soit apprise aux gens qui font des sciences de base, dans leur cursus, et c'est ce que je fais en formation, parce que moi j'interviens en école doctorale, mon doctorant, et on parle de ça. Après, moi, j'ai pas de diplôme en philo des sciences. Donc, il y a aussi le problème de quel droit nous on fait ça. Et c'est une question légitime que vous ne me posez pas, mais je sens qu'il est en demi-teinte. C'est que, on s'est autorisé de nous-mêmes à le faire parce que, et on est très ouvert aux critiques sur comment on le fait pour le faire mieux. Mais le fait est que, il n'y a pas de diplôme des zététiques.
D'accord.
Les zététiciens, globalement, j'aime à dire que les zététiciens, c'est des gens qui ont plutôt un background scientifique et qui font de la philo. Et donc, ils le font mal, mais qui font ça avec une manière de faire qui fait que c'est au moins un peu intéressant et ça initie les gens à des notions importantes.
Et j'ai même pas envie de parler de background scientifique, mais à minima de sensibilité scientifique.
Oui.
Parce que background, ça suggère des études, ça suggère un travail en amont qui a été fait dans la science. Il y a d'excellents sceptiques autodidactes, il y a d'excellents zététiciens autodidactes, des personnes qui n'ont pas perdu leur curiosité, des personnes qui ont d'excellentes méthodes.
C'est plutôt des gens, jusqu'à maintenant en tout cas, qui venaient d'une culture scientifique des sciences de la nature. Et maintenant, malheureusement, c'est comme ça, et maintenant on a plus de gens des sciences humaines qui commencent à venir et ils sont les bienvenus parce qu'on a besoin de cette angle-là également.
Ok, et alors du coup à la STEC vous proposez des formations, alors évidemment, là, effectivement, la question était en demi-teinte de, entre guillemets, de quel droit, voilà. Mais du coup, vous avez décidé, vous avez pris de vous-même le droit de le faire, ce qui est tout à votre honneur d'ailleurs, ce qui est complètement votre droit. Qu'est-ce que vous proposez dans le fond, quels sont le contenu, on va dire, des formations que vous pouvez vous proposer?
En fait, il suffit de regarder les conférences que moi et Blaise on a données au cours des différentes années qui sont disponibles sur la chaîne. Ça reprend un peu ça, c'est-à-dire qu'on part des illusions d'optique qui illustre bien la différence entre le monde réel et ce qu'on perçoit. Il y a un décalage fondamental.
Je t'interromps pour dire qu'en conférence, j'utilise de plus en plus des apophénies auditives pour le public aveugle,
voilà,
vu que l'accessibilité est devenue un peu mon combat principal, parce que les illusions, les apophénies, concernent autant le visuel, c'est un sens qui est très très développé chez nous autres entendants et voyants.
Chez le primate en général.
Chez le primate en général, tout à fait. Mais les illusions auditives existent également.
Et tactile, on a
le
lapin de machin. Bon, je vous dis quoi, il y a donc moi j'interviens initialement en école doctorale et je suis allé me former chez Denis Carotti à Marseille, qui appartient au Cortex, et donc est un enseignant, et voilà, et donc avec Richard Bazin et d'autres personnes dans le Cortex, à l'époque ils ont construit un enseignement dont je me suis inspiré en bonne partie, je leur ai volé des idées qui étaient excellentes pour des ateliers et des structures. Et après voilà, c'est les grandes notions de la pensée critique, de c'est quoi une pensée extrême, c'est quoi l'escalade d'engagement, c'est quoi les sophismes, les fallacies, les manières qu'on a d'argumenter, comment est-ce que on prend sur soi. La zététique, c'est d'abord penser contre soi, c'est pas utiliser des outils pour cogner sur les idées des autres. C'est se demander, mais ce que je crois, pourquoi est-ce que je le crois? Donc c'est d'abord être dans cette dimension-là, qui normalement est celle du chercheur face à son sujet d'étude. Le chercheur, il veut tester son hypothèse, il n'est pas là pour la cajoler, normalement. Il est là pour la mettre à l'épreuve. Et on ne le fait pas dans la vie de tous les jours parce que ça demande un petit peu d'entraînement.
Pour reprendre une maxime célèbre, enfin en la détournant un petit peu, l'esprit critique n'est pas un sport de combat.
En tout cas, il y a une dimension qui est d'abord se battre contre soi, à la rigueur. Voilà.
D'accord. Ah oui,
c'est une épreuve, en fait.
Se battre contre soi plutôt que se battre les uns avec les autres, quoi.
Ça n'interdit pas
de chercher à se battre les uns avec les autres.
Ça n'interdit pas d'être présent sur le terrain pour dire stop à des rumeurs qui circulent, à des pseudo-sciences. On le fait. Le débunkage est crucial. C'est important que ça existe. Mais souvent, les gens croient les zététiques à travers les polémiques, les clashs et le débunkage et oublient tout ce qu'il y a autour. Et qui est plus constructif, parce que on a besoin de ça d'abord. Le débunkage, il vient après, à la rigueur. Mm-hmm.
Ok. Et alors, je vous fais un retour de nos auditeurs et auditrices qui nous parlent un peu, qui nous font des retours sur l'émission. Ils nous disent, bon, déjà que c'est très intéressant, qui nous disent que la science, beaucoup nous disent que la science n'est intéressante que si elle est partagée. Donc voilà, c'est une vision que je pense, en tant que vulgarisateur, vous partagez également. Et on m'a donné une citation, alors je ne sais pas si elle est stricto sensus vraie. La science, c'est le consensus des engueulades, de Bachelard. Je ne sais pas si ça résume l'histoire, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces retours.
Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que les scientifiques, ils passent leur temps à se contredire les uns les autres, à dire mais là tu oublies une virgule, machin, et des fois ça part vite, hein, des fois il y a des détestations à vie qui se créent sur des petits points théoriques qui nous paraissent à nous absolument sans importance, mais voilà, le sens du détail et le sens de la disputatio cordiale, mais parfois ça dérape. Il y a cette espèce de fantasme qui moi m'amuse un petit peu, des scientifiques qui essayent de maintenir les consensus. Voilà, c'est cette espèce de lobby scientifique, mais de toute façon, la science, elle dit ça, et du coup, tous les scientifiques, ils disent ça parce que ça maintient leur pouvoir. Parce qu'ils sont obligés, franchement, un scientifique qui réussirait à démonter une théorie
Darwin
hyper forte, typiquement Darwin, voilà, un révolutionnaire en science, le mec, son nom rentre dans l'histoire. Une personne qui arriverait pour démonter la théorie de la gravité, bon bah le mec, on se rappelle de lui, quoi. Les scientifiques n'ont pas intérêt à maintenir le statu quo. Ils ont plutôt intérêt à le démonter, en fait. Oui. Allô?
Oui.
Pardon.
On réfléchissait à ce que vous disiez.
J'ai balancé une telle bombe, là.
Ouais. Non, mais vraiment. Parce qu'on réfléchissait à ce que vous disiez et ça met en perspective beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui... Et là, je pense forcément à la crise du Covid, mais quelqu'un qui reste forgé sur une idée... Sans l'avoir remis au moins une fois en doute pour voir si son idée était fondée, n'est pas tellement dans la science finalement.
C'est sur Marseille. Les scientifiques sont des humains.
Oui.
C'est-à-dire que les idées scientifiques ne disparaissent pas. Alors ça dépend, mais il y a pas de règle absolue. Mais souvent, elles ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un arrive et montre que c'est faux. Elles disparaissent parce que les gens vieillissent et meurent avec leurs idées. Et donc il y a des vieux qui croient à un truc depuis 30 ans. On arrive, on montre que c'est faux, ils vont continuer d'y croire. Et s'ils sont professeurs d'université ou général de brigade de scientifiques avec une blouse blanche et une grande barbe, et qu'ils ont l'autorité, ils vont résister jusqu'à leur dernier souffle. Ça arrive aussi.
Et donc, le problème, c'est que souvent, ils vont transmettre leurs idées qui, malheureusement, vont se propager.
Voilà. Donc, évidemment, ces idées-là disparaissent, mais il faut du temps. Et donc, il faut même distinguer, et c'est fondamental, le temps de la science et le temps de la recherche. Et c'est ces deux temps qui se sont télescopés pendant la crise. On a vu des gens qui étaient en train de chercher, pendant qu'on cherche, on ne sait pas encore. Quand on ne sait pas encore, on ne dit pas qu'on sait. Il y a des gens qui ont ouvert très très grand leur bouche en disant « moi je sais ». Ils auraient pu avoir raison, sauf qu'ils avaient tort, ces gens-là. Les gens qui avaient raison, c'est ceux qui ont dit pendant au moins 6 mois « on ne sait pas ». Et ceux-là, ils le disaient moins fort, alors on ne les a pas entendus.
C'est difficile d'entendre « patience, on ne sait pas » en temps de crise. Il y a une phrase... Je n'arrête pas de le dire, il y a une phrase qui est fondamentale dans l'esprit critique, c'est « je ne sais pas ». À partir du moment où une personne vous dit « je ne sais pas », on a cette espèce de petite voix dans notre tête qui nous dit « bon bah c'est un charlot, il dit qu'il ne sait pas ». Mais non, parce que si cette personne nous dit « sur le sujet A, je ne sais pas », et que sur le sujet B, il nous dit « je sais », on peut lui faire confiance sur le sujet B. Tandis que la personne qui va nous dire « sur le sujet A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z, je sais », mais à partir de quel moment cette personne fait preuve d'humilité épistémique, du fait de savoir reconnaître qu'elle ne sait pas? C'est important de savoir reconnaître ce qu'on ne sait pas, parce que ça montre qu'on sait quand on sait. Ou en tout cas, qu'on peut avoir un peu plus confiance, à minima.
Les experts médiatiques qui viennent répondre sur tous les sujets et qui ont l'air de tout savoir, il faut s'en méfier comme de la peste.
Ouais.
En France, on a des philosophes qui savent tout sur tout. Les philosophes médiatiques en France, ils ne valent absolument rien, parce qu'ils savent tout sur tout, donc rien.
Voilà. Et même chose pour tout. Les biologistes, il faut bien se rendre compte que le savoir à l'échelle doctorale, le savoir vraiment à l'échelle la plus haute qu'on a a priori en termes d'échelle du savoir actuel, c'est infime, c'est infinitésimal. Donne l'exemple que tu as bien donné sur le fait qu'il n'y a plus de personnes.
Oui, en biologie, si vous vous intéressez aux pucerons, c'est des petites bestioles sympas, il y a beaucoup d'espèces et il y a à peu près 20 ans est décédé le dernier chercheur qui savait les reconnaître à l'œil, enfin avec une loupe, à l'œil. n'y a plus aucun expert qui est capable de connaître toutes les espèces de pucerons, qui est pourtant un domaine extrêmement étroit de la science. Mm-hmm. Donc quelqu'un qui serait tout sur tout, pas possible, c'est forcément un charlot. Et la proportion de la connaissance que chacun peut avoir se réduit tous les jours parce que la science progresse. Et quand il y a plein de connaissances qui sont produites, individuellement, on en sait de moins en moins en proportion. Et ça, il faut l'accepter.
Voilà, donc à la télé, quand on a un biologiste qui intervient pour parler un jour de biologie orga, un jour de biologie moléculaire, un jour de biologie végétale, un jour de biologie... Si c'est la même personne qui intervient à chaque fois, il faut se méfier, parce que ce n'est pas possible d'être savant dans tous ces domaines-là.
Si c'est un journaliste qui rend compte de travaux des autres,
c'est différent.
C'est son travail. Mais s'il vient en tant qu'expert d'un sujet, il faut choisir.
C'est ça, parce que nous, on est médiateurs. On est médiateurs, on n'est pas producteurs de savoir. Attention, nous ne faisons pas de recherche, nous ne produisons pas de savoir. Nous sommes des passerelles. C'est-à-dire, on se renseigne sur le savoir.
C'est ta mère, la passerelle.
Passerelle toi-même.
Waouh. Ah, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance derrière.
On est des vecteurs. On est des vecteurs, mais nous ne sommes pas des producteurs de savoir. Nous sommes des producteurs de... nous sommes des médiateurs, quoi. Tout simplement.
Bah oui, des médiateurs.
Voilà.
Et la zététique avec les réseaux sociaux et les médias, elle est sportive de nos jours. Et est-ce que des vocations dans le domaine peuvent malgré tout naître?
C'est une très très bonne question. J'espère que ça va se calmer. Il y a plein de gens qui s'intéressent à tout ça et qui n'osent pas, parce qu'ils voient un petit peu la manière dont on est traité les uns les autres dans le milieu, et notamment des contributrices sceptiques qui restent dans l'ombre,
oui,
qui font des choses qu'on connaît un peu, on voit ce qu'elles font, mais elles ne veulent pas se montrer parce que quand on est une femme et qu'on fait de la vulgarisation et qu'on parle des zététiques, on critique un petit peu les idées des autres, la toxicité est maximale, et je rêve que dans la prochaine décennie, on féminise un peu tout ça, qu'on fasse rentrer d'autres champs scientifiques. J'ai parlé des sciences humaines, moi j'ai défendu plusieurs fois, c'était aux 50 ans de la FIS à Marseille, j'avais pris la parole pour en parler. On a besoin que les gens soient pas frileux et qu'ils viennent. Globalement, on est tous très preneurs qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent, avec leurs compétences, avec leur point de vue situé, et leur bienveillance si possible, pour apporter quelque chose à la curiosité générale. On en a besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ambiance est peut-être dissuasive, et je le regrette beaucoup.
Bah, il faut avoir des épaules, quoi. Je sais qu'à titre personnel, les épaules, je les ai de moins en moins. Je fatigue de plus en plus de l'ambiance sur les réseaux sociaux. J'ai quitté Twitter. Twitter, c'est un média social que j'ai complètement déserté, ce qui, à l'échelle médiatique, est dommage. C'est-à-dire, mon travail, c'est un travail médiatique. Je suis supposé diffuser mon travail et je me suis coupé d'un média social extrêmement populaire parce que je trouvais que l'ambiance était beaucoup trop toxique. Je n'ai plus les épaules. Des personnes l'ont et il y a des femmes qui essayent de venir. Je pense à Miss Pauline, la mal biaisée, qui est incroyable, que je respecte incroyablement.
Fantine Hippocrate,
j'allais le dire. Mais à côté de ça, combien de femmes nous contactent pour nous proposer, éventuellement, est-ce que si j'écrivais des articles, vous pourriez les héberger ou faire des vidéos dessus? Parce qu'elles-mêmes n'osent pas se montrer. Parce que le climat est tellement toxique que les personnes qui, dans la société, de manière générale, sont les plus défavorisées, se retrouvent sur un média populaire avec un prisme qui, en fait, grossisse les inégalités. Et c'est encore pire. Donc, être une femme, être une minorité, être queer, être handicapé, être n'importe quelle minorité sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, c'est une catastrophe, c'est très très difficile.
Voilà, c'est compliqué. Et le fait est, le paysage zététique aujourd'hui, c'est des hommes blancs, éduqués, avec des diplômes, c'est ça qu'on retient. C'est pas grave en soi, mais je trouve que c'est un peu grave. Grave dans le sens où le travail est fait, mais du coup, ça montre bien qu'il y a des barrières. Voilà.
Ok. Et alors, on reviendra un peu sur cette difficulté de l'ambiance générale sur les réseaux sociaux qui font qu'il faut avoir des épaules pour faire de la zététique un peu aujourd'hui. On reparlera aussi peut-être un petit peu des affaires, pour le coup, des affaires peut-être un peu plus juridiques, judiciaires, qui suivent un peu la tronche en biais actuellement. Donc pour les personnes qui suivent la tronche en biais, ils savent déjà de quoi je parle. On en reparlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, et parce que ça fait un peu partie de cette ambiance de quand on a de la zététique, quand on a du doute qui vient sur certains sujets, eh ben on peut vite se retrouver face à des personnes qui, je vais pas mâcher mes mots, qui foutent une ambiance de merde, quoi, qui sont irrespectueux, qui
ne respectent rien. Oui, mais c'est-à-dire que ça, on a en face de nous des arnaqueurs, des menteurs, des manipulateurs qui vivent de la crédulité des gens, et ceux-là sont nos ennemis. moi, la personne qui croit aux ovnis extraterrestres, c'est pas mon ennemi. C'est pas, c'est... Par contre, c'est quelqu'un qui manipule tout le monde en disant, moi, j'ai parlé aux extraterrestres, moi, je sais ce qu'ils veulent, et achetez mon bouquin ou achetez mes conférences ou venez boire du jus de fruits dans une cahute. Voilà. Cela, puisqu'ils manipulent des gens, bah, c'est un petit peu notre vocation, on se prend pas pour des héros, mais ça donne envie de dire, écoutez, non, voilà pour quelle raison c'est pas valable. Et ben du coup, ces gens-là nous détestent. Et dès qu'il y a une entrée pour nous causer du mal, ils le font.
Et j'ai une discussion pas plus tard que cet après-midi avec quelqu'un où on discutait et voilà, et je disais, mais c'est une personne qui croit dans la réincarnation. Je dis, écoute, mais t'as une spiritualité, voilà, t'es branché de spiritualité, mais si ça te fait du bien, mais je ne t'en veux pas. À l'échelle individuelle, ça te fait du bien. Moi, je n'y crois pas. À partir du moment où tu me respectes, je te respecte, pas de problème. Mais si tu commençais à vouloir enfoncer ta croyance dans la gorge des autres, à vouloir produire une religion, à vouloir produire au pire une secte, là, ça commence à me déranger. Parce que là, tu interfères sur le champ social. Mais si les personnes ont des croyances personnelles, si les personnes ont des spiritualités, moi, dans l'absolu, ça ne me dérange pas.
Le fait qu'on porte une parole, c'est quelqu'un qui croit fermement dans quelque chose, la parole est sceptique, elle est forcément désagréable. Et il n'y aura pas de moyen poli de dire à quelqu'un que la réincarnation, désolé, mais ça repose sur rien. Et donc, il faut apprendre, eux, à supporter cette erreur-là, et nous, à ne pas confondre les gens et leurs croyances.
Voilà, et cette personne, justement, on a une discussion très intéressante par rapport à quelque chose, c'est qu'elle me disait, mais le problème, c'est qu'à l'époque, on t'apprend les maths, on t'apprend la géo, on t'apprend le français, mais tout ce qui concerne la vie intérieure, la spiritualité, le bien-être, on ne te l'apprend pas. Et là, je lui ai dit, non, mais attention. Si on commençait à vouloir, à l'école, enseigner la spiritualité, qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'on a des personnes qui commenceraient à parler de leurs croyances, qui influenceraient les personnes, qui commenceraient à vouloir que d'autres personnes aient le même type de croyances qu'elles, et là, ce serait hyper toxique. Et même cette personne qui était très spirituelle m'a dit, ouais, j'avoue, ce serait pas possible. Enseigner, ce serait hyper négatif.
Ça, c'est la laïcité tacite des enseignements et de la science. Et Guillaume Lecointre, chercheur et biologiste, en parle, et notamment, il sera à Nancy le 6 avril, pour une conférence.
Absolument.
Je fais de la pub.
Non, mais t'as raison.
Faites.
Ça sera au CHU à Rambaud.
Voilà.
Eh bien, on vous reprend juste après une petite virgule musicale pour intégrer toutes ces informations et on continue après à échanger.
Ok.
À tout de suite.
Tu nous fais écouter quoi?
On va écouter This is the Light de LZ7.
Oh.
LZ7. Let your light shine on. Yeah, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna put it on a stand, I won't give up the fight. I'm gonna stand with courage, I won't be discouraged. Gonna stand in the truth and that the truth is knowledge. I am blessed and blessed and blessed to have a love like this, like this, like this. Yes, I am a son of the king, I know that I'm accepted. Have a destiny and I won't be rejected. I want you to feel it, so that is why I say this. I let it out, spit these bars, making God famous. I'ma let it shine, little light of mine. Put the news on a stand and I won't let it hide. So you can come and ask and I will tell the truth. Cause my story stands before you and it's living proof. If he did it for me, then he'll do it for you. He's knocking on the door, so what you gonna do? This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. We'll testify and live my life. The grand design, I believe it. Yeah, you're the reason why. Now I see it. No longer faking, no longer confused. So I give you praise cause I love what you do. Cause you give me something people don't understand. Yep, you know you make me wanna be a better man. I'm gonna go out and talk to your people. Yes, 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 I'm gonna talk to your people. Give them the chance to get up and to hear the truth. And the truth is you're the reason why I'm breathing. This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine. This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Center
to the nation. Are you gonna change your generation? Is it gonna be your motivation? All you gotta do is start a conversation. Do you wanna be sent to the nation? Are you gonna change your generation? Is it gonna be your motivation? All you gotta do is start a conversation. This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine. This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine.
Oh, let it shine, let it come shine. On.
Let it shine, hey. Let it shine, oh, let it shine. Let it shine, hey. Let it shine, hey. Let it shine, oh, let it shine.
So let your light shine.
This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine.
Shine on.
This little light, a light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, oh, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, oh, let it shine.
De retour sur Radio Alpa avec le sujet de la zététique. N'oubliez pas d'interagir sur les réseaux sociaux.
Exactement, vous pouvez réagir sur la page de Radio Alpa, donc page Facebook, Twitter, Instagram, radio-8alpa, donc tiré du bas. Et nous sommes toujours avec Thomas Durand, avec Arcer Mandax, on va appeler par les pseudos de la chaîne, Arcer Mandax et Vlad Tapas, toujours parmi nous.
Je rappelle donc ce dont nous avons parlé durant la première partie, à savoir que pour faire de la zététique, il faut des épaules, parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas facile.
Ça va être un résumé, voilà, ça va être un résumé.
Oui, bah oui. Hein.
On a parlé de beaucoup de choses en 25 minutes.
Ouais.
On a parlé de beaucoup de choses en 25 minutes, donc on va résumer.
Que la zététique, donc l'art du 12, pour ceux qui nous rejoignent, c'est avant tout un combat pour soi avant que ce soit un combat pour les autres.
Ah, contre soi.
Contre soi.
Si on a bien compris, c'est-à-dire que
oui.
faut d'abord avoir une aptitude de remise en question avant d'aller dire aux autres bêtement et méchamment, vous avez tort.
Bachelard, que vous avez cité, Bachelard disait faire de la science, c'est penser contre son cerveau.
Exactement.
On est son pire ennemi.
Donc. Voilà pour le résumé de la première partie.
Exact.
Résumé court.
Très court.
Alors, première question, quelle est la place de la science et de la démarche scientifique aujourd'hui dans la société, et des démarches scientifiques, puisqu'il y en a plus.
Je vais citer Carl Sagan, qui dans sa dernière interview, avant de mourir, d'être malade, a dit « On a construit une société fondée sur la science et la technologie ». Au milieu de gens qui ne comprennent rien à la science et à la technologie. Et ce mélange entre l'ignorance et la puissance de ces outils-là va nous péter à la gueule. Donc, voilà, il a tout dit. Et nous, on en est là. Et on essaie de contribuer à ce que les gens veuillent acquérir une littératie, une culture scientifique pour pouvoir être plus juste dans leur jugement des questions politiques qui reposent le climat, les épidémies, comment on décide de qui paye pourquoi, le système de santé, voilà. Tout ça, c'est des questions qui reposent sur de la science. L'énergie. Si les gens ne savent pas ce que c'est que la science, ils ne sauront pas distinguer un bon programme d'un programme complètement fou. Voilà.
Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui sont contre les vaccins, mais qui vont acheter un dentifrice parce que dans la pub, la personne qui le vend a une jolie blouse blanche bien propre. C'est-à-dire qu'il y a, cette ambiguïté extrêmement triste entre le fait qu'on a conscience que la science produit du savoir, mais en même temps la science fait peur parce qu'on ne la comprend pas. Donc, pour des questions un peu triviales, on va dire oui, la science c'est cool, mais pour des questions d'importance majeure, pour les questions qui ont un poids sur le champ politique, sur le champ de la santé, sur le champ social, là on va commencer à se méfier. Et ça, c'est un paradoxe qui est terrible.
Ok.
Après le passage de la crise...
Du Covid,
exactement, c'est ça.
Parce que c'est la principale crise qu'il y a eu depuis 4 ans, même si on a une autre en cours, mais...
Et aussi la guerre en ce moment. Internet est un puits de savoir, mais aussi de fake news. Si on ne prétend pas dire quoi penser, est-ce qu'on peut en revanche correctement prétendre dire comment bien penser ou de manière sécurisée et objective?
Bah, c'est la grande question. Il y a quand même, il n'y a pas de réponse facile, il y a quand même des grands critères. Si vous vérifiez pas l'info avant de la partager, vous pensez pas bien. Si vous n'allez consommer que les choses qui vous rassurent dans ce que vous croyez déjà, bah, vous pensez pas bien. Si penser, c'est essayer de se rapprocher du vrai, bah, vous pensez pas bien. Donc évidemment, et on sait bien que, parce que ça a été étudié, les gens, notamment qui adhèrent à des théories du complot, typiquement, manque de toutes les qualités qu'on pourrait rassembler sous le chapeau de la pensée critique. Vérifier les choses, penser contre soi, ne pas être amoureux de ses hypothèses, avoir envie de tester.
Mettre un terme aussi à son doute et à ses soupçons.
Voilà, douter et pas soupçonner. Voilà, donc, il y a quand même des grands critères qui permettent de séparer. Ils sont pas mystérieux. La plupart des gens pensent correctement. La plupart des gens ne croient pas les théories folles sur les ovnis, sur la Terre plate. C'est vraiment une minorité. Et je ne crois pas du tout aux résultats des sondages qui montrent que les Français sont à 80% à croire aux théories du complot. Ces sondages sont mal foutus.
Alors vous aviez fait une vidéo d'ailleurs il y a pas très longtemps là-dessus sur un dernier sondage.
Mais tous les ans ils en sortent un. Donc là j'ai fait une vidéo parce qu'ils commencent à me saouler. C'est pas du bon travail. Et j'ai pas encore pu le dire à Rudy en vrai. Il était aux assises de la pensée sectaire. J'ai vu de loin, on s'est même pas croisé. On s'est pas vu en 8 ans. Bon, mais voilà, donc à côté de ça, les gens sont raisonnables, ils pensent bien, mais il y a les 4, 5, 10% de gens qu'on voit partout parce qu'ils sont très motivés. Des anti-vax en France, c'est 4%. Mais la couverture qu'ils occupent dans les réseaux sur les thématiques de la vaccination, c'est presque 50%.
On ne peut pas avoir une émission de télé sur le vaccin sans l'une de ces personnes qui composent les 4%, qui sont rarement des experts.
Et ça, c'est un problème du journalisme. Oui, je me tourne vers vous. Il faut arrêter de vouloir absolument avoir sur un plateau le pour et le contre. Quand le contre, c'est 4%, et que le pour, c'est tous les professeurs de médecine du monde.
Il faut arrêter de faire croire à ces fausses symétries. C'est absolument terrible, et ça alimente les fake news. Ces fausses symétries, c'est atroce.
D'accord, donc ça, c'est un peu les canons de l'esprit critique, les canons de la zététique, disons.
Voilà, on n'a pas le temps de vous donner tous les canons de l'esprit critique. En tout cas, la zététique, on ne prétend pas qu'on détient le vrai, on ne prétend même pas qu'on a la bonne méthode, on la met à l'épreuve. En revanche, nous, on doute de ceux qui disent « moi, je détiens le vrai ».
D'accord,
ok. C'est qu'on est des sceptiques. On n'est pas certain d'avoir le vrai, et on pense même que le vrai est inaccessible, c'est un horizon, et ceux qui disent « c'est bon, on s'arrête, on a trouvé », ça finit mal.
Okay. Il y a une petite phrase qu'on ne dit jamais, mais qui, un petit peu en sous-texte, conclut la totalité des conclusions qu'on donne, c'est « jusqu'à preuve du contraire ». Voilà. On ne le dit jamais, parce que ça semble aller de soi pour nous, mais voilà, quand on dit « oui, bon, bah l'évolution, c'est une réalité, jusqu'à preuve du contraire. Le vaccin contre le Covid, ça fonctionne, jusqu'à preuve du contraire. » On ne le fait pas à chaque fois, mais c'est là en sous-texte. Quand on est un peu critique.
D'accord, ok. Alors maintenant qu'on a entre guillemets dit quelles sont quelques façons dont on est sûr de pas bien penser, comme par exemple ne pas vérifier ce qu'on partage avant
justement,
de partager.
Vérifier, justement.
Oui, justement. C'est ce que je dis. Ne pas vérifier avant de partager, c'est pas forcément bien.
Effectivement.
C'est justement ça que je dis.
Et ça nous arrive à tous. Personne n'est parfait. Il ne faut pas demander aux zététiciens d'être des gens parfaits, parce qu'on va être extrêmement déçus. Pas plus tard qu'hier, j'ai réagi à un tweet, en fait c'était un faux. Je l'ai cru, je ne suis pas allé vérifier à la source, en fait il avait été trafiqué. C'est bête quoi, mais ça va arriver à chaque fois qu'on croira la source, alors qu'on n'aurait pas dû. Or, faire confiance, ce n'est pas un défaut de base.
Non. Et la plupart des choses qu'on présente comme des biais. Alors, j'aime bien lire, je trouve ça très rigolo. En langue des signes, biais cognitif se signe comme bouclier cognitif. Parce que ça nous a souvent servi à nous protéger. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est une approximation bien sûr, mais je trouve que c'est très très élégant comme signe. Typiquement, le paralogisme le biais de l'expertise, l'appel à l'autorité. Ça n'est pas toujours un paralogisme. Il y a de bonnes autorités. Ce n'est pas une mauvaise approximation de penser que si cette personne qui a étudié un sujet pendant 8 ans pour avoir son doctorat et 10 ans par la suite pour continuer à étudier, si elle nous dit quelque chose, c'est pas une mauvaise approximation de se dire « Ah bah oui, a priori, elle a plus raison que mon jardinier. »
Jusqu'à preuve du contraire, on a plutôt raison de se fier à ceux qui donnent tous les signaux de compétence sur un sujet.
Le problème, c'est qu'ils donnent tellement de signaux et que certains sont tellement bavards et que justement, comme on aime bien les révolutionnaires, on a une certaine sympathie pour ces personnes qui ne pensent pas comme la doxa. Et cette sympathie-là, des fois, il faut faire attention. Parce que c'est fou, mais des fois, la majorité a raison, ça peut arriver. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver.
C'est marrant parce que ça fait un peu écho à l'actualité. Du coup, de dire c'est fou, ça arrive pas tout le temps. Mais
oui, ça, oui.
Mais du coup, c'est... Ok. Alors, Vous avez parlé de paralogisme, si je ne me trompe pas. Vled a parlé de paralogisme. Alors, paralogisme et biais cognitif, c'est quelque chose dont je propose de parler juste après. Et je vais introduire ça par une petite musique que vous connaissez sûrement. J'imagine que ça vous dit quelque chose.
Alors, visible. Je sais pas qui a proposé ça, mais c'est quand même vachement bien.
Alors, vous parlez beaucoup de biais cognitifs et du coup de paralogisme sur la tronche en biais, notamment dans l'émission La petite boutique des erreurs, qui fera inévitablement penser à La petite boutique des horreurs. Ça ressemble un petit peu, hein.
Dont
on vient d'entendre le générique, donc c'est pour ça que je savais que ça vous parlerait. Donc, certains de ces paralogismes, alors surtout les paralogismes, sont cités par Arthur Schopenhauer dans son Art d'avoir toujours raison, les fameux stratagèmes de Schopenhauer. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces paralogismes et sur les biais cognitifs chez l'humain?
Je te laisse râler sur le terme paralogisme parce que c'est celui que je préfère, mais c'est pas ton préféré à toi.
Il y en a un, c'est paralogisme, il y en a un autre, c'est zététique. Donc, chacun son truc.
Non, mais c'est. pendant longtemps, on a parlé de sophisme. Ok, sophisme, c'est des mauvais arguments, sauf que le problème du sophisme, c'est que quand on utilise ce mot, on implique que la personne qui argumente mal et fait exprès d'argumenter mal, donc il y a l'intention. Or, en zététique, on sait qu'il ne faut pas supposer l'intention. On n'a pas accès à l'intention. Alors, on peut avoir des marqueurs hein, dans le comportement, mais c'est compliqué. Quoi, Macron, il ment ? C'est possible. Donc, le mot paralogisme, il est plus neutre, c'est un argument erroné. Ou fallacieux. Et donc le mot fallacieux existe. Donc le mot fallacie existe. Et moi j'ai pris ça. En anglais ils utilisent fallacie avec un Y. Et en fait le mot fallacie avec IE à la fin, il est français. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Donc moi je parle de fallacie. Et donc dans le livre de la boutique des erreurs, il y aura le mot fallacie. Mais le mot paralogisme est équivalent. Mais je l'aime moins.
Voilà. Bon, c'est complètement des batailles de vocabulaire. Moi je t'en veux pas d'utiliser fallacie. Enfin, t'en voulais quand tu utilisais sophisme. Le sophisme je l'aimais pas.
Oui. Bah voilà. Du coup on se corrige, on s'améliore. Oui. Et donc voilà. À l'époque Aristote avait commencé avec une liste de 13 arguments à éviter. Schopenhauer, on a un petit bouquin au local mais j'ai pas là. A fait une petite liste. Maintenant voilà. Selon les sites où vous cherchez fallacie par l'instant, vous pouvez avoir des listes de 40, 50, 120 trucs différents. Ils aiment pour les biais. Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux, des heuristiques, des manières qu'on a d'arriver à des conclusions rapides, efficaces, et qui sont correctes dans la plupart du temps.
Mais qu'est-ce que c'est une heuristique, maître ?
Une heuristique, c'est un raccourci, tu veux dire. C'est une manière d'arriver à une conclusion. Donc c'est les deux grandes notions, les fallacies, les mauvais arguments et les biais cognitifs, c'est les deux grandes notions dont on parle en zététique, c'est-à-dire parfois on nous reproche de parler que de ça, donc alors qu'on ne le fait pas. Et donc voilà, donc Schopenhauer a fait cette liste-là. En gros, il y a la généralisation abusive, c'est-à-dire que vous prenez un cas particulier et vous faites une généralité. Donc si jamais vous passez sous une échelle et vous prenez un pot de peinture sur la tête, vous dites « Ah, ça porte malheur de passer sous une échelle », alors en fait non, c'était juste cette échelle-là, il y a pas de chance. Et la plupart des stéréotypes, des discriminations, etc., reposent sur des gens qui prennent des cas particuliers, qui oublient quels sont les déterminismes et qui décident, qui savent pourquoi et qui font qui tirent des règles générales, parce que le cerveau, et là on revient sur le côté heuristique, fonctionne comme ça. On a des expériences personnelles, on retient des leçons et on généralise ce qu'on a vécu pour chercher une règle générale. Et quand petit, vous mettez votre main sur la bougie, vous brûlez, vous inférez que toutes les flammes brûlent et vous avez raison. Donc, c'est pas non plus un mode d'acquisition c'est bon, comme c'est pareil pour les essentialismes. On a raison de faire des boîtes pour apprendre des choses. Mais ces outils-là d'acquisition de la connaissance, ils sont imparfaits. Et comme on ne sait pas spontanément de l'intérieur détecter quand on a tort, quand on a raison, c'est mieux d'avoir une méthode où on se débarrasse de ces raccourcis. Et donc, c'est ce qu'on tente de faire.
Et alors, le temps tourne, donc on va devoir avancer un petit peu plus vite. Hein, je suis désolé. On a plein de questions, mais on vous les posera parce qu'on viendra vous rencontrer aux Rencontres de l'Esprit Critique en avril.
Ah, parfait.
On viendra vous rencontrer aux Rencontres de l'Esprit Critique, donc on prendra 5-10 minutes ensemble. J'espère qu'on les trouvera. Bon, on essaiera et on vous posera les questions qui restent qu'on a à vous poser, qui nous restent là et peut-être une ou deux autres. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, en avril, on aura le plaisir de vous accueillir de nouveau sur les ondes de Radio Alpa. via les rencontres de l'esprit critique. Donc, on se garde ces questions pour la prochaine fois. On va peut-être maintenant vous laisser la parole sur le programme de la STEC et de la tronche en biais à court terme et à moyenne échéance. Et pour l'occasion, je repasse une autre petite musique que vous devez connaître. Je dois dire que quand même, les musiques sont vachement bien faites.
Vous êtes sympa, c'est pas mal, hein.
Mais il est vrai, alors c'est encore, j'attends que ça finisse, il est vrai, c'est encore plus fidèle quand on voit l'image de cette émission pendant la musique, mais c'est vrai que cette musique est particulièrement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va entendre un truc d'illuminé, je sais pas comment dire ça, mais c'est bien, ça donne tout de suite l'image.
J'ai étudié.
Alors, quel est le programme de la STEC et de la TEB?
Alors, le programme de la STEC et de la TEB, moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai beaucoup d'actualités dans le monde sourd. Prochainement, hier, on a eu une super conférence sur le syndrome de privation langagière qui est en ligne, que tout le monde peut voir. Il y avait des interprètes en langue des signes française qui étaient là. C'était super, c'est un très très bel événement, très inclusif. La moitié du public était sourd, et ça m'a vraiment vraiment fait plaisir. Ce week-end, je vais à Arras pour un séminaire qui s'appelle STEAM, pour sciences, techniques, ingénierie et mathématiques. Et en fait, il s'agit d'une association, de doctorants et de chercheurs sourds qui travaille à la création d'un signaire scientifique. Alors un signaire, en gros, c'est l'équivalent en langue des signes du vocabulaire. Il y a une grande pénurie en termes de lexique de science en langue des signes, et c'est un collectif qui essaye de créer des signes pour parler de la science. C'est la deuxième fois que je vais aux événements STEAM, c'est vraiment super bien. On s'est réservé aux signants professionnels de la science, bien sûr, mais j'essaierai de faire une vidéo pour en parler. Une semaine après, il y a la Fédération nationale des sourds de France qui organise le même type d'événement, mais pour les sciences humaines, parce que STEAM, c'est pour les sciences dures. Et pareil, pour la création d'un signaire scientifique pour parler des sciences humaines. C'est super bien. Je crois que dans le mois à venir, c'est un petit peu tout.
Bon, il y aura d'autres choses,
oui, bien sûr.
En commun à nous, c'est ça. Le 28 mars, c'est un coup de source, le magazine du scepticisme que j'anime avec Bled quand il est là. Et là, on va parler de... On aura un invité qui est expert de stylistique, donc analyser les textes pour vérifier qui en est l'auteur. Il a validé que Molière avait écrit ses pièces, par exemple. Il y aura une conférence de Guillaume Lecoing qui va venir à Nancy, donc on va capter ça et la mettre chez nous. Je vais faire une conférence, une keynote à Devox, qui est un grand salon pour les développeurs à la Porte de Versailles à Paris. On aura les règles de Toulouse, et on devrait avoir un tranche en live où on aura Henri Brock, mon voisin, qui sont les générations 1 et N, et N cousins de la zététique. Il y aura nous, et on essaiera d'avoir une petite jeune en plus pour parler de l'évolution de la zététique, où on en est, comment les générations communiquent entre elles. C'est intéressant de voir est-ce que le relais se passe bien ou pas. Et il y aura d'autres choses.
Alors, il y a bien sûr le baromètre de l'esprit critique
à la Cité des Sciences,
qui est organisé à la Cité des Sciences la semaine prochaine, jeudi. Alors, malheureusement, comme Mandax a un événement, lui, ce jour-là, je vais m'y rendre en compagnie du vice-trésorier de la STEC et d'un autre membre de la STEC. Nous serons plusieurs pour représenter la STEC au baromètre de l'esprit critique. C'est la deuxième édition, j'étais présent à la première. Et donc, le but, c'est tout simplement de rendre compte de l'évolution de l'esprit critique dans la société.
Et de comment on peut le mesurer ou pas.
Et comment on peut le mesurer. Et puis, bien sûr, comme tu en as parlé, c'est hyper important de le dire, le mois prochain, il y a le REC, les rencontres d'esprit critique, qui auront lieu... quel jour, quel week-end ?
22 et 23 avril à Toulouse.
22 et 23 avril à Toulouse. Il faut que les gens viennent en masse. C'est la troisième, quatrième édition ?
C'est la troisième, c'est gratuit, je crois.
C'est gratuit. C'est la troisième et c'est toujours gratuit.
Voilà, et c'est très probablement le meilleur événement d'esprit critique qu'on ait actuellement en France.
Oui.
Donc il faut venir, c'est incroyable.
Il y a des dizaines et des dizaines d'intervenants, des chercheurs, des vulgarisateurs, des gens concernés par les problématiques qui sont là. C'est incontournable. Et donc Willy a réussi le tour de... C'est celui qui organise, a fait un tour de force. Il faut des compétences extraordinaires pour organiser tout ça. Et on est très très heureux qu'il les ait et qu'il les mette au service. Tout ça, parce que lui, il n'a rien à gagner à part beaucoup beaucoup de temps et des nuits blanches et des
fracarmes.
Voilà, donc voilà, c'est vraiment du partage, et c'est magnifique.
C'est une vraie initiative populaire, et on encourage tout le monde à venir.
Eh bien, on note tout ça sur nos calendriers, et une toute petite question avant de se quitter.
Alors, comment on fait si on veut vous contacter?
Les auditeurs en partie aussi. Surtout.
Les gens qui veulent vous contacter, il y a le compte Twitter, je réponds toujours. Vous avez le blog Monasterisme, c'est pas hyper pratique. Vous avez l'Aztec, qui a également une adresse et un site.
Voilà, contact@esprit-critique.org. Cette adresse-là, il y a l'avantage que moi aussi, je reçois les mails et que du coup, on peut tous les deux répondre.
Voilà, il y a la page Facebook de la Tronche en Biais.
Dès que tu reçois un mail qui me concerne, tu me le...
Évidemment, voilà.
Je continue systématiquement.
Donc sur les réseaux, vous voyez, et puis poser des questions sous les vidéos, dans la section commentaires, normalement, je les vois. Ça peut arriver qu'on rate, parce que des fois, il y a beaucoup. Mais si vous voulez vraiment nous joindre, les gens trouvent assez facilement les liens. C'est pas compliqué.
Vos avis trouvent toujours un chemin.
Entendu. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin en 2-3 secondes avant qu'on se quitte?
Abonnez-vous.
Sachez
dire, je ne sais pas.
Souscrivez à un abonnement.
Et lâchez le pouce bleu aussi.
Et lâchez le pouce bleu.
Lâchez les commentaires.
Et les commentaires. C'est bon pour le référencement. Bon, et bien, parfait. Et bien, merci d'avoir
merci
écouté
beaucoup.
Cette échange. Merci d'avoir été là.
Merci, c'est ça.
À Serment d'Axe et Vled de la Tronche en Biais.
Voilà.
Merci du travail d'utilité publique que vous faites. Et puis, on se reverra aux rencontres de l'esprit critique en avril.
Voilà. Attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. Des bisous.
Des bisous. Allez, à dans 2 semaines en ce qui nous concerne. Merci Eglantine. Et puis, gardez la pêche, surtout.
Et c'est moi qui dis.
Ah pour une fois. Allez. Salut tout le monde.
Salut.
On touche pas,
quelle indignité.
Eglantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que c'est?
Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux.